Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. J'ai bien dormi sur cette planche et ce matelas, et quand j'ai fermé les fenêtres, les petites fenêtres en forme d'ogive, et que j'ai tout fermé, c'était noir, noir, noir. Il n'y avait rien qui pouvait m'indiquer une lumière quelconque. Rien, je vous dis. C'est rare. C'était complètement obscur, complètement noir. C'est vrai que c'est le soir. Bon, le jour, si on veut prendre une sieste et qu'on ferme les fenêtres, peut-être qu'on verra à travers les fenêtres, en tout cas qu'à l'extérieur, il y a un peu de lumière. Mais là, c'est l'obscurité complète et le silence. Là, vraiment, j'ai goûté un peu le silence, un peu. Parce que pour moi, rejoindre le silence profond, c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve en ce sens que je ne veux pas, c'est une épreuve dans le sens que j'ai toujours des obstacles. J'entends tout, et c'est un obstacle parce qu'on arrive rarement à goûter le silence profond de manière extérieure. On le goûte, évidemment, dans la prière, parce qu'on arrive au sanctuaire, on arrive au plus profond de nous-mêmes, en communion avec le Seigneur, et dans l'amour, je pense que l'amour aidant, eh bien, nous sommes en communion avec le Seigneur, et là, nous sommes dans une forme d'intériorité où on n'entend plus. On n'entend plus avec les oreilles externes. On est vraiment dans cette communion avec le Seigneur, et heureusement qu'il nous fait ce cadeau, parfois, d'atteindre cette qualité du silence intérieur, où la parole de Dieu ne peut s'exprimer que dans ce silence. Ce silence est parole. C'est un don profond, et on ne l'atteint pas toujours. Parce que il y a nos propres obstacles à nous. Nous sommes, avant d'arriver là, il y a plusieurs peaux qui doivent s'enlever, comme on pourrait peler une pomme. Eh bien, il y a plusieurs pelures qu'on doit enlever pour arriver au cœur de ce silence. Eh bien, je poursuis, donc l'accueil, on s'installe, je m'installe un peu, je regarde les lieux, et c'est assez, c'est l'heure aussi de, je dirais, d'une petite collation. On sent qu'on a besoin de prendre quelque chose, ce sera le moment d'une collation, d'un thé, de boire un peu, et assez rapidement, nous sommes invités à monter à l'église abbatiale pour y vivre les vêpres, mais on va nous conduire dans un autre lieu. Donc, comme il y a des travaux dans l'église abbatiale, il y a tout un côté, le côté gauche, où il y a des échafauds avec des toiles pour protéger. Ils sont en train de refaire l'éclairage, nous a-t-on dit. Donc, des travaux, ça fait partie de la vie. Constamment les travaux. Et ensuite, nous allons descendre dans une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de Souterre. Alors, les moines, les moniales font l'oraison avant de célébrer les vêpres. Alors, mon collègue et moi, nous les suivons et nous indiquent le chemin. Ce sont des personnes relativement jeunes, là. les moniales comme les moines, disons, je vais donner un âge moyen, du côté des hommes autour de 50 ans, du côté des femmes plus jeunes, à mon avis, autour de entre 40 et 45, la moyenne. Donc, nous descendons et là, nous arrivons à Notre-Dame de Souterrain. On nous explique, regardez le mur, regardez ce mur. Il y a un mur qui est dégagé, d'une certaine manière, des structures, et on nous dit, c'est le mur d'origine de la première chapelle qu'on a construite sur le mont Saint-Michel. Je pourrais peut-être vous parler plus tard de ce que j'apprendrai, parce que je n'ai pas tout appris. Je viens d'arriver, on a été pris dans un tourbillon d'activités. Vous allez trouver ça étrange, mais nous sommes dans une abbaye, nous sommes avec des moines et des moniales, mais il y a un événement. Et nous entrons dans l'événement, nous arrivons ici. Si nous étions arrivés la veille ou plus tard, nous n'aurions pas vécu cet événement. Alors, on accueille tous les événements quand on est pèlerin parce que c'est le réel, c'est le concret, c'est le présent. Donc, ils célèbrent un anniversaire, c'est-à-dire les 10 ans de service de l'hôtellerie. Je vous ai parlé qu'il y avait une hôtellerie. Donc, ils célèbrent les 10 ans de l'hôtellerie. Eh bien, ce jour-là, le jour où nous arrivons, donc ils nous disent, écoutez, c'est inhabituel, c'est le grand silence. Eh bien, ce sera différent. On voit arriver aussi des gens qui vont venir prier à Notre-Dame de Souterrain, dans cette chapelle, prier les vêpres avec les moines et les moniales. Et ensuite, nous allons remonter, et là, nous allons entrer dans le réfectoire des moniales. Parce que c'est là que va se passer la réception, d'une certaine manière, dont la fiesta, hein, c'est une fiesta spirituelle, mais il y a comme un buffet et nous allons nous servir. Et les sœurs et les moines ont invité des personnes qui sont proches de l'hôtellerie, qui ont probablement servi, qui ont été des gens... des gens qui se sont investis avec la communauté. Il y a aussi le recteur du sanctuaire qui se trouve là, un prêtre de la communauté Saint-Martin qui est au sanctuaire, plus bas, donc c'est différent des moines. On est dans une paroisse, comme une paroisse, c'est un curé qui s'appelle un recteur, et il y a là un jeune séminariste qui est chinois. Je pourrais vous en reparler. Donc, nous vivons les vêpres, cette liturgie, qui est la liturgie de la résurrection, puisque c'est la vigile, ce sont les vêpres du dimanche, d'une certaine manière, qui est anticipée, et nous prions avec la communauté. Ensuite, nous remontons, et là, nous sommes entrés dans le réfectoire des moniales. Il y a quelques mots de présentation, une prière chantée, et ensuite, eh bien, on ne sait pas trop où se placer. Moi, je pense toujours à ce que Jésus dit dans l'Évangile. Quand vous êtes invité, bien, ne vous précipitez pas pour prendre la première place, parce qu'on pourrait vous dire, il y a quelqu'un de plus important. Et là, tout le monde verrait que vous êtes précipité pour avoir la première place. Donc, la dernière place. Alors moi, c'est ce que je pense toujours. Je ne suis pas chez moi, j'entre dans une célébration, d'une certaine manière. Donc, je me mets un peu loin, un peu en retrait, et je me dis, je vais comprendre quand ce sera le temps d'avancer ou d'être en situation de me placer. C'est ce que j'ai fait avec mon collègue, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu de voir de quelle manière les choses allaient se dérouler. Donc, je ne me suis pas précipité, ça ne m'intéresse pas, je ne me suis pas précipité, mais à un moment donné, c'était le temps, le moment, j'ai compris que je pouvais me placer à cet endroit. Personne m'a dit « prenez cette place ». Personne ne disait cela d'ailleurs, à personne. « Soyez-vous à tel endroit, personne ». Donc, je me suis placé, j'ai pris une petite assiette, j'ai pris des éléments pour manger. Il y avait des tables, et là, je ne voulais pas être près des fenêtres pour éviter le vent ou les courants d'air. Donc, je me suis placé près du jeune séminariste chinois qui se trouvait là avec un autre qui était déjà devant. Ils étaient deux à la table, pas plus. Les autres tables, c'était rempli. Donc, je suis arrivé à cette table. Je me suis dit, moi, ça me prend une chaise avec un dossier. Alors, il y avait des petits bancs. Alors, cette chaise-là, elle était là, à côté du séminariste chinois. Je me suis dit, c'est ma place, à cause de la chaise, de mon dos et du reste. Mon collègue s'est placé, à un moment donné, je pense, au bout de la table. J'ai pas trop compris. À un moment donné, il est allé du côté, d'un autre côté. Et là, une religieuse, une moniale est venue le retrouver. Donc, lui, il était en lien avec la moniale. J'ai quand même parlé avec la moniale. Elle nous demandait ce que nous faisons là. Donc, je pense qu'elles ont été informées. Mais c'est sûr qu'elles sont toujours intéressées à savoir d'où on vient, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, c'est intéressant. Et on entend les commentaires aussi, les commentaires des personnes. Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet. Dans le rôle d'un cousin, d'un des 10 lépreux guéris, Jean-Sébastien Ouellette, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, un cousin d'un des 10 lépreux guéris. Narration, Jean-Sébastien Ouellette.
Je ne sais pas comment va mon cousin, celui qui a été lépreux. Il y a si longtemps qu'il est parti sans donner de nouvelles. Il y avait bien un Éthiopien qui, revenant de Syrie, nous apportait de sa part non seulement des nouvelles, mais aussi des denrées qu'il nous offrait. Elles étaient bonnes, ces dates de Damas. Je m'ennuie de mon cousin. Enfant, nous étions toujours ensemble. Nos familles étaient nombreuses et nos jeux n'en finissaient plus jusqu'au soir. Mais c'était lui que j'aimais le plus. Nous nous faisions souvent tirer les oreilles par nos mères, car nous tardions à rentrer à la maison. Des fois, le soir venu, je sortais de nouveau, en cachette. C'était un pacte avec mon cousin. Lui m'attendait dans la cour arrière de sa maison, et là, en silence pour ne pas être découvert, tous deux, nous regardions les étoiles un bout de temps. Puis, il fallait que je revienne sans faire de bruit. Mes sœurs étaient au courant, mais gardaient le secret. Peut-être parce que j'étais le seul garçon de notre famille. Vers l'âge de 17 ans, mon cousin a attrapé la lèpre. Personne encore dans nos familles n'avait été victime de cette maladie. Nous avons vu sa peau changer si rapidement que bientôt il a dû nous quitter et aller vivre avec des gens comme lui. La lèpre, c'est pire que la mort. La mort vous dit que c'est fini, que vous pouvez pleurer, mais que la personne qui vous était proche ne reviendra plus jamais. La lèpre, elle, vous dit aussi que vous pouvez pleurer puisque la mort est dans les parages, mais le malade est toujours en vie. Savoir que celui que vous aimez est encore de ce monde, mais qu'il ne peut être à vos côtés parce qu'il est comme un mort, c'est la fin de votre monde aussi. Quand il est parti, quelque chose en moi a cessé de vivre. Je me suis mis à errer, ici et là. Je le cherchais des yeux, m'informais à tous s'ils ne savaient pas où mon cousin était. Pourtant, je savais qu'il ne reviendrait jamais. Mon père a eu vent de mes démarches. J'ai eu droit de sa part à toute une remontrance. Quoi ? Je voulais partir aider mon cousin, lui apporter de la nourriture, des vêtements, lui tenir compagnie. Il m'a dit que je devais oublier ça, car cette désobéissance serait ma mort, à moi. De fait, quand un membre de sa famille est atteint de cette maladie, ses proches le sont aussi. Ce qui fait que, veux, veux pas, à la maison, nous étions tous devenus des lépreux. Chacun était aux aguets pour détecter la moindre rougeur. Un jour, la sœur de mon cousin nous a rendu visite. Ma mère l'a regardée comme si elle avait été une vermine. Elle n'est jamais revenue. Une maladie comme la lèpre, je vous assure, ça détruit les familles, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, le village, quoi. Comme après un incendie, chacun, sans exception, finit sur la cendre de ses peurs. Le temps a passé. J'ai eu du travail dans le village voisin. Puis j'ai commencé à penser que je pourrais rencontrer là-bas celle qui serait la mère de mes enfants. Une fois, j'avais aperçu une fille dans ce village. Elle était passée, sans se détourner, mais juste à sa démarche, j'avais senti s'éveiller en moi quelque chose d'assez fort pour demander à un garçon qui travaillait avec moi s'il savait qui elle était. L'air de rien, celui-ci m'a dit « C'est ma sœur, Rebecca. » Rebecca. J'ai gardé longtemps dans ma tête ce prénom, jusqu'au jour où je l'ai senti imprégné dans mon cœur. J'ai donc sondé mon compagnon de travail juste pour voir si la jeune fille était libre. Il m'a dit de venir à la maison, puisque les demandes en mariage se décidaient avec les parents. Cette réponse a provoqué chez moi un grand frisson. Tout de même, un matin de février, alors que le ciel était tout beau, je me suis décidé à me présenter chez elle. Par chance, c'est mon camarade qui m'a ouvert. Lui, il savait ce que je venais faire. Sa mère, qui l'avait rejoint à la porte, m'a détaillé, des pieds à la tête. Je m'étais fait beau. Elle m'a dit en souriant de parler à son mari. Il était dans la cour. Fallait-il que je traverse seul la maison pour le rejoindre ? Voyant mon embarras, mon camarade m'a fait signe de le suivre. Je l'ai suivi docilement, la gorge serrée dans un étau pas possible. Surtout que j'imaginais les yeux de la femme encore rivés sur moi. Je devais être tout rouge, comme les cerises. Bientôt dehors, j'ai vu de dos un homme qui travaillait le bois. Il ne s'est pas retourné. Son fils lui a dit que nous travaillions ensemble au chantier et que j'étais originaire du village voisin. Le père ne semblait pas écouter. J'ai voulu risquer quelques mots, sans y parvenir tellement je me sentais bloqué. C'est alors que mon compagnon est allé droit au but. « Père, Nathan demande en mariage Rebecca. » J'ai failli m'effondrer. Là, le père a cessé de travailler son bois et m'a fixé, droit dans les yeux, pour me déclarer « Ma fille est comme moi. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. » Je n'ai pas compris le sens de ces paroles, mais avouai qu'elles avaient de quoi m'inquiéter. Le père voulait-il ainsi me signifier son refus? Pourtant, il a bientôt demandé à son fils de la faire venir. Là, j'aurais voulu déguerpir à toute vitesse, mais j'étais figé sur place, sans autre choix que d'attendre la suite des choses. Rebecca est arrivée. Feignant de ne pas me voir, elle s'est présentée devant son père qui lui a demandé « Rebecca, tu auras des enfants, n'est-ce pas ?»« Si Dieu le veut, » a-t-elle répondu. « Cet homme est ici pour toi. Il me demande si je permets que tu l'épouses. Tout allait trop vite pour moi, et surtout pas comme je l'avais imaginé. J'aurais voulu mourir. Elle s'est tournée vers moi et m'a regardé. Moi, je n'osais le faire. Son père est alors intervenu. « Si en ce moment tu ne peux répondre à son regard, je te conseille d'aller ailleurs. » J'ai donc levé timidement les yeux et j'ai laissé Rebecca faire sans broncher. Elle m'a souri. J'en ai fait autant. C'est ma femme aujourd'hui, que j'aime le plus au monde après Dieu. Mais pourquoi je vous parle de moi maintenant? J'avais commencé à vous décrire ma peine et celle de mon cousin lépreux. Le temps a encore passé. J'étais devenu un chef de famille comblé. Et un jour, l'incroyable est arrivé. J'étais chez moi à me reposer pendant que ma femme était partie chez ses parents avec nos enfants. Je ne m'étais pas sitôt assoupi qu'il m'a semblé entendre un grattement inhabituel à ma porte. J'ai d'abord pensé que je rêvais, mais mon visiteur a insisté. Et avant que je me décide, la porte s'est entrouverte et un homme dans la trentaine qui, s'avançant résolument, me détaillait avec des yeux interrogateurs. Médusé, je l'ai regardé à mon tour, avec l'impression de retrouver quelque chose de familier. Puis, mon visiteur m'a interpellé par mon nom. C'était Zacharie. Nous nous sommes jetés instantanément dans les bras l'un de l'autre. Dans nos effusions, l'interdiction formelle de mon père m'est revenue soudain à la mémoire, et j'ai eu un mouvement de recul. « Mais ta lèpre ?» lui ai-je demandé. « Je n'ai plus la lèpre. Je suis guéri. » Mon incrédulité devait être évidente, car Zacharie a commencé à tout m'expliquer. Lors du passage du prophète de Galilée, je me suis présenté devant lui avec 9 de mes semblables pour supplier ensemble la pitié de Dieu. Notre prière a été entendue, et tous, nous avons retrouvé sur le champ notre peau d'enfant. Le prophète nous a dit d'aller nous montrer au prêtre pour qu'il reconnaisse notre guérison et pour que nous puissions reprendre la vie normale dans notre village. Fou de joie, j'ai couru aussitôt remercier le prophète. Depuis, je ne cesse de l'invoquer. Je suis un homme comblé. Il ne me manquait que le bonheur de te retrouver. Déjà, j'avais trouvé extraordinaire son histoire de guérison. Mais j'ai été encore plus surpris par ce que mon cousin Zacharie a ajouté. Ce n'est pas tant d'avoir été guéri qui me rend heureux. C'est la croyance que j'ai que cet homme est le Fils de Dieu. Ça, je vous l'avoue que ça me trotte toujours dans la tête. Un homme, même s'il a le pouvoir de guérir, est tout de même un homme. Mais Zacharie ne s'est jamais démenti. Pour lui, le prophète était le Fils de Dieu. Ce doit être pour ça que je vous ai raconté l'histoire de la demande en mariage. Convaincu que personne ne douterait de sa guérison, mon cousin a pensé au mariage. Il a choisi celle qui nous suivait partout lorsque nous étions enfants. Elle avait bien 10 ans de moins que nous, cette petite. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'a pas été simple. Les parents de la fille ont demandé au prêtre d'examiner mon cousin des pieds à la tête. Zacharie s'est laissé faire. Il était confiant. On l'a fait descendre dans un bain, et là, les prêtres, ils étaient 2, ont fait minutieusement leur travail. Heureusement, au bout du compte, mon cousin a été jugé digne des plus belles épousailles. Notre réunion a tout de même été brève. Et aujourd'hui, je m'ennuie de lui. Rebecca et moi étions devenus très près de sa femme et chérissions leur petit. Peut-être en ont-ils eu d'autres depuis. Mais un jour, c'est devenu trop lourd pour eux ici. Et ils ont dû quitter la région pour Damas. Ils sentaient que leurs enfants souffraient de la méfiance qu'ils suscitaient autour d'eux. Je vous le dis, la lèpre, ça contamine tout un village. Guérison ou pas, c'est pareil. On vous montre du doigt et on vous repousse. Quelques semaines avant son départ, Zacharie a croisé Thomas, un des hommes qui accompagnait le prophète au moment de sa guérison. Ils ont échangé sur le sujet. Quand Zacharie lui a fait part du scepticisme général à son endroit, Thomas lui a avoué dans un hochement de tête que lui le premier en avait été coupable. Après la crucifixion, il n'avait pas voulu donner foi à cette histoire. Avouez que c'est assez difficile à croire que le prophète était ressuscité. Les autres avaient beau en témoigner, il n'était pas question pour lui de se laisser ensorceler par des fantômes. Le maître est venu. Il m'a montré ses plaies de crucifié. J'ai mis mes doigts dans ses plaies et ma main dans celle de son côté transpercé. Tu vois, Zacharie, je suis un parfait exemple de l'incrédulité. Quand je repense à la confession de Thomas, j'aimerais tant revoir mon cousin pour qu'il me la raconte encore et encore.
Vous venez d'entendre Un cousin d'un des 10 lépreux guéris, la 5e d'une série de 13 émissions intitulée La rose bleue 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales, texte et musique Denis Veilleux, narration Jean-Sébastien Ouellette, à la technique Yannick Caron, réalisation Jacques Leblanc.